Onde noire, deuxième partie, nous traversons l'océan.
Pour aller aux États-Unis, avec un roman de Jake Hickson qui s'appelle Au nom du bien, qui est paru aux éditions Gallmeister et qui est traduit par Sophie Aslanides. Le titre original de ce roman, c'est Dry County, le comté sec. Il fait allusion à ces counties, ces régions, villes ou quartiers qui ont proscrit l'alcool, la vente et la fabrication, mais bien sûr, hypocrisie suprême, pas la consommation. Le roman se situe à Stock, dans l'Arkansas. L'Arkansas est l'état dont est originaire l'auteur, Jack Hickson. Il y a un pasteur dans ce patelin, il se nomme Richard Weatherford, et il est dans le pétrin. L'un de ses ouailles le fait chanter. Il réclame 30 000 dollars pour ne pas révéler qu'il a eu une relation homosexuelle, consentie certes, avec lui. Pas longtemps avant. L'homme d'église, qui est le garant de la morale, est plutôt déstabilisé, mais il décide de payer. Pour ça, il doit récupérer de l'argent, et pas seulement en vidant les troncs et en piochant dans les donations de sa paroisse, mais en essayant de vendre son appui pour l'établissement d'un magasin d'alcool dans la région. Loin d'améliorer la situation, les différentes tractations vont mener le pasteur et quelques gens du village de Caribes en Scylla. Et comme c'est le samedi de Pâques, période importante et symbolique pour les chrétiens, et pour la bourgade qui fait ça de façon importante, il faudra que tout soit réglé pour le dimanche. Et le dimanche, la morale est sauve, tout sera réglé. On a souvent lu à propos de Jack Hickson sa proximité avec l'écriture et les préoccupations de Jim Thompson. C'est très vrai. Sauf que sur les pelouses des habitants de Stock, Arkansas, du roman, il y a des pancartes « Make America Great Again ». Et qu'on est au pays de Donald Trump, au pays de ceux qui l'ont élu, au pays de ceux qui ont voté pour lui. On est quand même loin de la période de Jim Thompson, qui est quand même, il y a plus de...
Oui, sauf qu'on peut penser... On aurait pu penser que ça changerait, mais...
Eh ben non, ce sont les garants d'une véritable Amérique, alors qu'en fait, c'est bien le propos de Jack Hickson, leur moindre action est entachée de mesquinerie, d'hypocrisie. L'Amérique profonde n'a pas beaucoup changé, peut-être l'autre non plus d'ailleurs, depuis Jim Thompson, malgré les téléphones portables et YouPorn, parce qu'évidemment, il y a du YouPorn, puisqu'ils sont tous tellement à cheval sur la morale.
Apparemment, pas que sur la morale.
Exactement. Par-delà le conflit intérieur, disons, du pasteur, qui continue envers et contre tout à prêcher le bien, Jack Hickson, dans son récit, scrute chaque personnage au détour d'un chapitre, en leur donnant tour à tour la parole. Du tenancier d'un resto-route, un diner, à la pute occasionnelle, qui travaille d'ailleurs dans le resto-route. Ou alors de la femme du pasteur, prête à tout pour sauver sa petite situation de notable, jusqu'au jeune homme à la sexualité hésitante, celui qui cède au pasteur. Une différence avec Jim Thompson, c'est que Jack Hickson, surtout dans ce roman, garde toujours dans son récit un brin d'humour. Certes, c'est très décalé et corrosif.
Donc, Jim Thompson, c'est très corrosif aussi. Hein.
Oui, mais c'est pas là, il y a quand même, moi je dis pas qu'on rit, mais on a quand même toujours ce côté humour qui, en fait, c'est la façon dont il regarde ce petit monde avec détachement et un peu de commisération. Plus qu'en fait de répulsion. Par exemple, une prière que le pasteur adresse au Seigneur, enfin disons à son Seigneur plutôt. Mais qu'est-ce qu'un prêcheur ? Un prêcheur joue de nombreux rôles différents dans de nombreuses vies différentes, selon ce qu'exige la situation. Bonimenteur de carnaval, conseiller matrimonial, homme d'affaires, escroc, philosophe, médium, magicien. Peut-être qu'un prêcheur n'est qu'un acteur qui joue le rôle d'un prêcheur. Peut-être que tu ne m'as pas choisi. Peut-être que je me suis choisi parce que je voulais monter sur scène. J'ai bien joué le rôle, mais au-delà de ma prestation, qu'est-ce qui est réel ? On avait beaucoup aimé l'enfer de Church Street. Celui-là aurait pu s'appeler l'enfer de Weatherford. On avait aussi beaucoup aimé Sans lendemain, les précédents romans de Jack Hickson, mais avec celui-là, il passe un cap, il monte d'un cran, tant dans la narration que dans l'écriture. Et du coup, j'ai comme une idée que on vous reparlera encore de Jack Hickson dans cette émission, de Jim Thompson aussi d'ailleurs, et quelque chose me dit qu'il aura encore Jack Hickson des personnages qui auront des soucis avec des pasteurs.
Oui, c'est, de toute façon, c'est un romancier qu'on suit depuis le début, et je crois qu'on a parlé de tous ses romans.
Ben voilà, donc effectivement, oui.
Alors, on va passer un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, donc pour faire le lien. En fait, dans le roman, il y a une chanson qui a une grande importance, c'est un gospel, évidemment, qui est chanté par Elvis et qui s'appelle Reach Out to Jesus. Mais bon, c'est quand même...
Eh ben, c'est pas ça qu'on va écouter.
C'est pas ça qu'on va passer, parce que ça doit être Elvis, c'est quand même extrêmement mièvre. Donc, on va passer plutôt d'un titre d'un groupe de rock, de Southern Rock, de l'Arkansas. Le groupe s'appelle les Moss Tucker, et le titre s'appelle Down Good Man. C'était donc les Moses Tucker. Ils revendiquent une influence de Lynyrd Skynyrd. Et ben, on peut dire qu'elle est indéniable.
Yann Lespou, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes fait rare cette saison, mais nos obligations professionnelles faisaient que on pouvait pas beaucoup se retrouver. Donc pour cette dernière émission, on est ravi que vous veniez nous parler. En plus, nous les sudistes, nous les méditerranéens, d'un roman qui, si je ne m'abuse, se passe en Corse.
Oui, tout à fait. Je suis ravi aussi de vous retrouver. Et oui, j'avais envie de vous parler ce soir de Malamorte et d'Antoine Albertini.
Il n'y a pas le bon accent, Yann. Il faut recommencer. Malamorte. Ouais.
Malamorte.
Bon. Voilà.
Et donc d'Antoine Albertini, qui est un roman qui se passe donc en Corse. C'est le premier roman d'Antoine Albertini. Alors Antoine Albertini, il faut dire qu'il est journaliste. C'est le correspondant du Monde en Corse. Et il a écrit auparavant des essais essentiellement, et donc il s'est lancé dans le roman noir avec ce livre qui parle d'un flic, bien sûr, un flic un peu rongé par divers problèmes anciens, des drames, un flic donc un peu borderline, on va dire. Qui se trouve cantonné aux affaires minables. Hein. On l'a mis dans un bureau un peu à l'écart, il est placardisé, et on appelait ça le bureau des homicides simples, c'est-à-dire en gros, hein, quand il se passe quelque chose sur lequel il n'y a pas besoin d'enquêter, on l'y envoie. Et il va se retrouver sur une scène de crime. Un entrepreneur a battu sa fille et sa femme avant de tenter de se suicider. Et en enquêtant sur cette affaire, il va petit à petit dévoiler des choses. Et bien sûr, tout ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que ce que ça paraissait, et ça va embarrasser beaucoup de monde, et on va essayer, bien entendu, de faire en sorte qu'il se taise, ou à tout le moins qu'il étouffe tout ça, ce dont il n'a pas du tout envie, parce qu'il a un gros problème avec sa hiérarchie. Alors comme ça, effectivement, ça peut paraître très classique. Hein,
très classique, oui, on pense en plus à pas mal de romans méditerranéens, de Sicile, de... voilà.
Oui, voilà, tout à fait. Ce qui est très très bon dans ce roman avec Antoine Albertini, c'est que déjà, il place ça dans une Corse en plein hiver, sous la pluie, constamment. Donc il sort déjà de tous ces clichés. Je vous lis une petite phrase hein, qu'il y a au début du livre. Il dit « Les intempéries avaient rendu l'île à ses angoisses hivernales. Ces longs mois où la pire des malédictions nous tombait dessus, nous retrouver seuls avec nous-mêmes, prêts à laisser parler nos instincts cannibales, à nous entre-dévorer à la première occasion. » Et donc, dans cette Corse qui est écrasée par la pluie, les orages, par le froid, on est très très loin de tous les clichés. Et effectivement, là, hein, y a des haines qui commencent à remonter, des oppositions entre les personnages. Et alors, il y a ça, d'abord. Et puis, il y a l'écriture d'Albertini. Parce que, voilà, hein, sur la couverture, il y a un bandeau... avec une citation d'un journaliste qui dit c'est James Ellroy sur l'île de beauté. J'ai pas beaucoup trouvé de.
Mais vous remarquez pas qu'il y a souvent du James Ellroy dans beaucoup de livres qui sortent, sur les bandeaux surtout.
Exactement, sur les bandeaux. Et des fois c'est même James Ellroy lui-même qui le dit. Mais qui dit que c'est presque bon comme du James Ellroy.
Ouais, c'est
mais
ça.
En l'occurrence, j'ai pas trouvé beaucoup de ressemblances avec James Ellroy, mais et justement j'en étais content parce que Antoine Albertini a vraiment une écriture singulière. Il a du style, vraiment. Il réussit à camper des personnages extrêmement ambivalents et des situations complexes. Alors si la trame peut paraître très classique, si ces personnages peuvent paraître archétypaux de prime abord, en réalité, il fait quelque chose de vraiment très intéressant. Il a une écriture très évocatrice, très imagée, mais pour autant, il tombe pas dans le lyrisme. Et tout ça, ça donne vraiment un récit qui est assez assez impressionnant, qui est très très bien mené.
Et
qu'on prend un vrai plaisir à lire. Voilà.
Peut-être l'avez-vous dit au début, et j'ai peut-être pas... ça se passe en Corse du Sud, en Corse du Nord, en Haute-Corse?
À Bastia.
À Bastia. Hein,
oh,
Bastia.
Ça doit être dans le Cap-Corse.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est la partie de la Corse où il fait souvent, quand le temps est mauvais, c'est vraiment
c'est
mauvais.
C'est tempétueux. Ouais. Et par contre, pareil, c'est de l'éditeur.
Alors, l'éditeur sont les éditions Lattès.
Les éditions Jean-Claude Lattès.
Voilà.
Et vous savez s'il est toujours correspondant en Corse, parce que ça pourrait lui attirer des ennuis maintenant, peut-être un peu.
Oui, alors il est toujours correspondant en Corse, il habite toujours en Corse, hein, il est journaliste là-bas, il est Corse. Voilà, je sais pas si ça pourrait le tirer des ennuis, je suis pas sûr. En tout cas, voilà, c'est intéressant parce que quand je vous parlais des clichés, hein, c'est pareil, hein, il parle effectivement un peu des nationalistes, tout ça, mais plus que ça, il montre comment pour les autorités aussi, le fait de taper sur le nationaliste, ça permet de fermer les yeux à côté. Sur les trafics d'influence, hein, sur les entrepreneurs, sur les vrais gangs de bandits, en fait. Et c'est assez intéressant à voir sous cet angle-là aussi.
C'est peut-être là qu'on fait le rapprochement avec Ellroy, quoi, côté corruption, flic ou entrepreneur un peu véreux, quoi. Je suppose que
oui, ça doit jouer un peu. Oui, il y a ce côté un peu souterrain, effectivement.
Mais Antoine Albertini, il est correspondant, mais il est corse, son nom est assez...
Oui,
enfin,
oui.
Je suppose.
Oui, il est corse, oui.
Donc c'est bien parce qu'il doit avoir...
Donc il sait de quoi il parle. Hein.
Voilà, il sait de quoi il parle en tant que journaliste, mais il doit avoir un peu l'âme corse, donc il sait d'autant mieux, voilà. Quoi.
Exactement. Et donc il parle de l'île, en fait, c'est très intéressant, de l'île et de la société, à la manière, avec le regard du journaliste, mais aussi de quelqu'un qui est un citoyen, qui habite en Corse, qui est impliqué. Donc, il n'enjolive pas, mais d'un autre côté, voilà, il s'est pointé les dérives, et les dérives qui peuvent être des dérives, on va dire, corses, et aussi les dérives de la manière dont l'État gère la question corse. Et ça, c'est très intéressant.
Ou tente de gérer. On va rappeler le nom du livre, donc c'est...
Malamorte,
donc l'auteur est Antoine Albertini, et c'est aux éditions Jean-Claude Attès. Alors on va vous remercier Yann, et puis rappeler à nos auditeurs qu'on peut retrouver tous vos enthousiasmes de lecture, de temps en temps des petits coups de gueule, sur votre blog, qui s'appelle Encore du Noir. Pas dur, hein, même noir, on tombe souvent sur votre blog, plein de bons romans noirs, et on espère, on vous souhaite un bel été, avec plein de temps pour lire plein de bons romans, et voilà. Puis qu'on se retrouve à la rentrée très vite.
Avec grand plaisir, un bon été à vous aussi.
Merci beaucoup Yann Espoo, au revoir.
Au revoir Corinne.
Donc Malamorte, et on est en Corse, et c'est bien parce qu'il me reste juste 2 minutes pour vous parler d'un coup de cœur que vous devriez absolument lire cet été pour vous rafraîchir. Ça s'appelle Le dernier thriller norvégien, c'est un roman de Luc Chomara, et il est paru il y a très peu de temps aux éditions La Manufacture de Livres. C'est un roman qui se gausse, qui se moque, qui tempête après les thrillers qui nous viennent de Scandinavie. Vie. Donc,
Et même d'Islande,
voilà. Ils font dans tous les clichés, mais c'est juste pour nous régaler. Et puis, il y a une narration impeccable dans une double ou triple mise en abîme, parce qu'en deux mots, et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est un éditeur français de La Feuille. On l'a déjà rencontré d'ailleurs dans le deuxième roman, me semble-t-il. Je crois que c'est le deuxième roman de Luc Chomara.
L'espion qui venait du front, c'est ça.
Voilà. Et donc, ceux de La Feuille, qui décidément, Luc Chomara le met dans des situations...
Je sais pas pourquoi, moi j'aurais envie de l'appeler Arthur, mais... Arthur de La Feuille, oui, c'est bon.
Bon, oui, non.
Non, c'est pas mal.
Non, voilà.
Donc, c'est la fin de saison, on a le droit.
C'est la fin de saison, on a le droit. Donc, ça y est, j'en ai perdu mon fil. De La Feuille, éditeur, toujours éditeur, va acheter les droits de ce qui doit être le dernier succès, le dernier blockbuster d'un grand écrivain norvégien. Le problème, c'est qu'on va tomber sur des cadavres, et le problème, c'est que ces cadavres et le serial killer qui s'appelle l'Eskimo, ce qui fait penser à certains romans d'un certain auteur norvégien, dont je tairai le nom.
Qui est excellent par ailleurs.
Voilà, et tout ça, eh bien, c'est en fait l'histoire qui est racontée dans le dernier thriller norvégien. Donc, est-ce la réalité? Est-ce la fiction? Est-ce que la page que l'on lit, c'est le roman du dernier thriller norvégien? Ou est-ce qui arrive vraiment à De La Feuille, qui est vraiment dans les ennuis? Alors, voilà, comme j'ai dit, tous les clichés, l'idée que les noms norvégiens, il y a 6 consonnes, donc c'est imprononçable, donc évidemment, je les prononcerai pas. Il y a la tempête de neige, il y a Sherlock Holmes qui vient faire un petit tour. Voilà, donc
il y a la super bimbo scandinave
avec
95D dans les meilleurs, le plus mauvais des cas.
Dans le plus mauvais des cas, mais voilà. Et voilà, c'est jouissif, mais pas que. Parce que évidemment, il y a toute une réflexion derrière l'humour. L'humour dans le roman noir, c'est souvent corrosif. Donc ça donne aussi un petit peu à penser. Et voilà, on arrive au terme de notre émission, on arrive au terme de notre saison. Mais c'est pas grave, parce qu'on se retrouve l'année prochaine, on se retrouve avec la même, les mêmes horaires, les mêmes jours, premier et troisième mercredi du mois, dans les tranches 19h, pardon, pour vous parler des romans noirs qu'on a aimés, pour faire parler les gens qui les ont écrits, ceux qui les ont traduits. Voilà, donc on vous souhaite un bel été à l'ombre, parce que c'est pas facile de lire en plein soleil, et puis le soleil c'est pas très bon pour la peau. On va vous dire chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs, là pour le coup, vu que c'est tout l'été, plusieurs sûrement.
Au revoir Jacques.
Au revoir Corinne, au revoir à tous. À bientôt.
Et bon été.